RFI.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Rossia Dobri Vietcher, bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International de notre deuxième émission du jour que vous pouvez écouter ou regarder sur le Facebook Live de RFI. RFI donc au plus près de cette Coupe du Monde. Et patatras, une Coupe du Monde sans l'Allemagne et ses champions sacrés en 2014, mais avec l'Argentine et donc le Brésil. Alors que Manuel Neuer et ses camarades ont quitté la pelouse de Kazan tête basse, parfois en larmes, les Brésiliens qu'ils avaient humiliés il y a 4 ans se sont qualifiés en disposant de la Serbie par 2-0. Et c'est la Suisse qui accompagne les Brésiliens dans ce groupe, ce qui donnera en 8e de finale un Brésil-Mexique et Suède-Suisse. Les Lions de la Teranga joueront leur Vatou demain, 90 minutes pour se qualifier en 8e de finale face à la Colombie. Un match compliqué car les Cafeteros ont besoin d'une victoire dans ce groupe où le Japon est en tête. Les dernières nouvelles de la tanière des Lions transposées à Samara avec Olivier Pron qui ne les lâche pas. Mais dans ce studio, nous avons Karine Galli qui va peut-être sortir ses griffes. Bonsoir Karine.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Naïm Moniol, bonsoir.
Salut Annie, salut à tous.
Et puis Gilles Verdez, bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Vous avez des griffes ?
Non, là je suis ma crinière de lion est sortie.
Elle est sortie, bon alors.
Si je peux juste, Annie, faire une parenthèse 3 secondes pour m'expliquer par rapport à l'émission d'hier. A priori, j'aurais choqué les auditeurs en émettant des critiques vis-à-vis du Nigeria. Donc évidemment que c'était pas une critique vis-à-vis des joueurs ou de Garnotror. Simplement, au contraire, un soutien et une critique vis-à-vis de la fédération et du pouvoir en place qui, bien souvent, fait passer les priorités sportives au deuxième, troisième plan et qui ne leur permet pas de travailler correctement. Donc évidemment que je ne suis pas contre le Nigeria, encore moins raciste, que les auditeurs se rassurent. Ça a été mal compris, je m'en excuse.
Ben, très bien, j'espère qu'ils auront tous entendu. Et nous on continue, Radio Foot, c'est parti, vous nous suivez, vous nous regardez, vous nous écoutez.
Direction la Russie, pour vivre la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018.
Miranda, Coutinho. Continue encore le bon appel de Paulinho.
Oui.
Et cette fois ça marche. C'est parti plein axe. Il a tenté tout à l'heure Paulinho, ça lui a pas réussi. Cette fois ça a fonctionné. Remarquablement servi. Il ouvre le score pour le Brésil. Neymar encore au corner. On s'est bien frappé. Sur la tête de Thiago Silva. Les joueurs du PSG qui se montrent sur ce coup de pied arrêté.
Maracanã Football, les Brésiliens peuvent danser. Ils sont au rendez-vous, arrivés en Russie en affichant leurs intentions. Les joueurs de la Seleção veulent donc aller jusqu'au bout de cette compétition et les voilà en 8e de finale. Les Brésiliens, après avoir battu la Serbie, 2-0. Un but donc, vous l'avez entendu, de Paulinho et l'autre de Thiago Silva. Sur une passe d'ailleurs d'un Parisien de Neymar.
Hein,
n'est-ce pas ? Ça avait des airs de PSG ce deuxième
100%
but.
100% PSG.
du Brésil. Victoire qui fait donc suite à celle remportée à l'arraché mais sur le Costa Rica alors qu'ils avaient un peu buté sur la Suisse en entrant dans la compétition. Ce Brésil confirme-t-il le favoritisme qu'on place, je dirais, à chaque compétition en lui, Naïm Moniol ?
Disons qu'il s'est qualifié, c'est la moindre des choses compte tenu des joueurs qu'il a à disposition et du groupe dans lequel il est tombé. Après, en termes de jeu, je pense qu'on reste un peu tous sur notre faim. On a vu aujourd'hui, et c'était un peu le cas aussi contre le Costa Rica, pardon, une équipe organisée, bien en place, mais qui dans le jeu ne montre pas ce qu'on attend d'elle, qui collectivement ne dégage rien. On a plutôt affaire à des exploits un peu individuels, soit de Coutinho, soit de Neymar. Donc ils se sont qualifiés.
C'est pas les buteurs qui marquent en tout cas.
Voilà,
c'est clair.
Voilà. Ils se sont qualifiés, c'est la moindre des choses. Tant mieux. On verra tout à l'heure que d'autres favoris ne l'ont pas fait. Mais enfin, on est quand même un petit peu sur notre faim avec ce Brésil.
Gilles, vous êtes sur votre faim ou vous les trouvez rassurants ?
Rassurant. Franchement, je trouve que ils se sont bien préparés, ils évoluent au fil des matchs et les grandes équipes en fait ne doivent pas briller trop tôt. Par exemple les Croates, c'est une erreur fondamentale de briller trop tôt, d'être en forme pour les matchs de poule, ça n'intéresse personne.
Ils n'ont pas gagné ces mecs là, je te jure.
Il faut briller après. C'est pour ça que la France ira loin, c'est pour ça que le Brésil ira loin. Ils sont préparés pour gagner. Et là, ils montent en puissance. Neymar est mieux, Thiago Silva est mieux. La réconciliation entre les deux après les insultes, très symbolique. Ce Brésil ira très très loin, Annie.
Bon, et Karine, vous aussi, vous miseriez sur ces Brésiliens ?
Oui, toujours. On a été peut-être mal habitués lors des phases de qualification et des matchs amicaux. C'est pas aussi flamboyant que ce qu'on a vu par le passé, mais ils sont au rendez-vous de la compétition.
Ils ont fait une belle deuxième phase de qualification, on va dire, hein,
oui,
quand même.
Ah, mais Tite a changé cette équipe et je trouve que voilà, c'est cohérent. Après, il y a toujours un petit peu les mêmes choses. Il y a un homme qui sort du lot, je trouve que c'est Coutinho et non Neymar, et c'est pas plus mal. Il y a le jeu qui penche toujours sur le côté gauche et c'était déjà le cas lors des deux premiers matchs parce qu'il y a des petits soucis avec l'arrière droit et aussi avec Willian devant. Mais je trouve que c'est cohérent. Il y a une montée en puissance et puis d'un côté, c'est rassurant, comme le dit Gilles, ce fait que ça soit pas un épouvantail dès le début, parce que souvent il y a des équipes qui nous emballent lors de la phase de groupe et puis lors des matchs qui comptent, ils s'évanouissent. Et puis surtout quand on voit ce qui se passe face aux soi-disant gros qui sont pas au rendez-vous, le Brésil fait les choses bien. Ils en mettent pas plein la vue, mais c'est cohérent, c'est structuré. J'ai trouvé qu'il y avait aussi moins de cinéma du côté de Neymar. Il a simplifié son jeu et c'est pas plus mal. Et c'est pas plus mal. Donc voilà, la montée en puissance est au rendez-vous et ils sont programmés de toute façon pour aller très très loin. Et pour l'instant, ils sont vraiment dans les clous.
J'ai des fonds comme les Bleus alors.
Ben oui, pour moi, voilà, c'est le même type d'équipe qui dose leurs efforts, qui ne veulent pas briller trop tôt pour ne pas effrayer, effaroucher tout le monde, et qui dose leurs efforts. Après, là où je suis un tout petit peu moins d'accord avec Karine, c'est sur Neymar, parce que on l'a quand même vu beaucoup faire de roulades au début, et puis je trouve qu'il perd encore énormément de ballons.
Mais
il y a beaucoup de pertes de balles,
oui,
quand même.
Il y a du déchet,
Karine,
c'est son jeu.
Oui. C'est pas parce que Neymar touche beaucoup le ballon qu'il est un peu influent et qu'il pèse sur le jeu. Je trouve qu'il touche beaucoup de ballons, bah parce que quand vous le regardez, en fait, il est au milieu, à droite, à gauche, devant, au milieu, derrière, au centre, dans l'axe, partout. Non, mais il veut un peu tout faire, un petit peu comme Messi avec l'Argentine. Voilà, il redescend très bas, il veut participer à tout. Et il touche beaucoup le ballon. C'est une remarque qu'on peut se faire, c'est indéniable. Maintenant, il pèse pas vraiment dans le jeu. Je trouve qu'il y a beaucoup de gestes inutiles.
Passe décisive, quand même.
Oui, sur un corner, mais dans dans le jeu, Coutinho est quand même nettement plus influent.
Oui, mais
il sert quand même beaucoup plus les attaquants.
Bien sûr,
mais Coutinho, qui est d'ailleurs pas loin d'être le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, en tout cas sur la phase de poule, Coutinho, très clairement. Donc voilà, moi, Neymar, j'en attends quand même beaucoup, beaucoup plus, même s'il n'est pas à 100% parce qu'il a une blessure. Un joueur de ce calibre, tu peux pas te contenter d'une phase de poule comme ça.
Après, le sélectionneur, pour moi, il a les avantages de ses inconvénients. Avantage, c'est qu'on sait, et lui le sait, les joueurs le savent, exactement où il veut aller. Il y a très peu de variations dans l'équipe, assez peu, sauf contrainte. Les changements, toujours quasiment les mêmes aux mêmes minutes. Moi, il y a un joueur dont je comprends pas la permanence, mais c'est le joueur du sélectionneur, c'est Gabriel Jesus. Je ne comprends pas. Je trouve que c'est un joueur qui n'a pas sa place dans le système. C'est un joueur, pour moi, défaillant.
Tu sais pourquoi?
Ah bah,
pourquoi Gabriel Jesus joue? Parce qu'il décroche pas comme Firmino. C'est vraiment l'attaquant qui va rester dans les 25 derniers mètres et qui va pas l'enquiquiner. Oui, je suis d'accord, mais il va pas l'enquiquiner Neymar dans sa zone. Alors que Firmino, il va bouger. Parce que c'est pas un type qui prend la pointe 90 minutes. C'est juste pour ça. Après, peut-être aussi qu'il y a des affinités et qu'un mec comme Neymar préfère beaucoup plus jouer avec Gabriel Jesus qu'avec Firmino. Ça, c'est pas impossible.
Après, il y a peut-être un problème. Il y a la blessure de Marcelo qui est arrivée très tôt. Il va falloir voir pour la suite de la compétition. Parce que je disais que le jeu penchait à gauche, et notamment aussi grâce à Marcelo sur les premiers matchs. Le remplaçant de Marcelo, c'est pas aussi bien. C'est bien, hein, Felipe Luis, mais Marcelo, c'est quand même une vraie valeur ajoutée, que ça soit offensivement. Il peut marquer à tout moment, il peut faire des décalages, il peut combiner sur son couloir. Donc c'est quand même une perte. On verra si cette perte, si elle se prolonge, sera préjudiciable.
Pour l'instant, effectivement, on l'a vu sortir très très tôt du match, on l'a vu se plaindre de douleur et d'ailleurs avoir des expressions effectivement faciales assez inquiétantes. C'est pas très concordant, hein, Gilles, on a cherché un petit peu. En fait, il y a une explication officielle, en tout cas, puisqu'elle émane de la Confédération Brésilienne de Football, de la CBF, par Twitter. Elle s'est exprimée en disant: sur une tentative de sprint, le latéral a ressenti un spasme à la colonne vertébrale, ce qui s'appelle en fait une entorse lombaire. Alors, est-ce que ça dure longtemps ou pas?
Alors, on ne sait pas exactement. D'autres sources, c'est ce qu'on regardait, Annie, faisait état d'une douleur à la cuisse, d'un problème à la cuisse sur une récupération de balle lors d'une course. Donc voilà.
Un claquage.
pas forcément, mais une douleur musculaire.
Mais donc si c'est musculaire, c'est ennuyeux.
Ouais, donc il y a un petit mystère. Et je pense que les Brésiliens n'ont pas trop envie d'être immédiatement transparents, notamment sur la durée de son indisponibilité. Donc je suis pas sûr qu'on sache tout de suite. Exactement. C'est vrai que, comme disait Karine, c'est un élément essentiel du dispositif, non seulement sur le terrain, mais dans le leadership. C'est un joueur qui peut incarner une sorte de rôle de leader tout terrain. Ouais, c'est très important.
Ouais, il a l'habitude de ça d'ailleurs. Un petit mot sur la Serbie. On la disait faible et lente. Avant le match.
Extrêmement
dans
décevante.
Cette émission.
Ouais. Extrêmement décevante parce qu'elle est vieillissante, c'est vrai. Elle est pas spécialement rapide, mais elle a, comme toutes ces équipes qui viennent du bloc yougoslave, une qualité technique.
Voilà. Oui, au début de match, elle a même été un peu gênante pour les Brésiliens.
Il y a des vrais beaux joueurs de foot. Matic, Lalic, Milinkovic. Mais enfin là, c'est une équipe qui a été complètement transparente, qui n'a absolument pas le niveau pour sortir d'une poule d'une Coupe du Monde, et son élimination est logique. Finalement, elle a gagné qu'une fois sur un coup de pied arrêté de Kolarov. Dans le jeu, elle se sera inclinée deux fois.
Dans l'autre match donc de ce groupe, on avait la Nati, comme on la surnomme, l'équipe de Suisse, qui elle s'est qualifiée. Alors elle s'est qualifiée un peu dans la difficulté parce que elle a finalement fait un match nul sur le score de 2-2 face au Costa Rica, qui fêtait ça comme si c'était un match une victoire. Mais c'est vrai que c'était important pour la Suisse de ne pas perdre, en tout cas.
Non, mais j'aurais pas parié un centime moi sur les Suisses. Honnêtement. Je les avais vus lors des matchs amicaux et même leur premier match, et je voyais, parce que on dit toujours Shaqiri parce que c'est le joueur le plus connu, mais ça a quand même été une déception. Alors là, au deuxième match, il a marqué soit, mais c'est toujours, on dit Shaqiri parce que c'est le nom le plus connu de la Suisse. Mais globalement, je trouvais que cette équipe était assez faible et proposait pas grand chose. Et finalement, bah, ils ont été très costauds sur le deuxième match. Ils ont fait preuve de mental et de capacité à renverser une situation compliquée. Et puis là, pareil, il y a un deux buts partout. Alors je suis très surprise de certaines équipes qui arrivent à se qualifier en huitième de finale. C'est la beauté de cette Coupe du Monde, mais honnêtement, j'y croyais pas du tout, donc je vais pas changer d'avis maintenant en disant que je les voyais sortir.
Ils prennent un péno dans les arrêts de jeu, hein, parce que sinon ils gagnent 2-1.
Hein. Effectivement, ouais, c'était au dernier instant, et c'était avec la vidéo.
Monsieur Turpin,
il adore.
Il a réutilisé la vidéo pour des décisions sans doute justifiées, mais c'est extrêmement difficile à lire. Moi, je maintiens que c'est très compliqué à lire. Pour le spectateur, pour le téléspectateur, et pour les joueurs qui attendent pendant quelques minutes bras croisés, pour moi, voilà, je sais que vous en débattrez très bientôt, mais pour moi cette vidéo
demain,
ne sert pas à grand chose.
Nous allons en parler.
Ouais, je voudrais juste ajouter quelque chose. Alors sur la Suisse, Karine, il y avait quand même eu des éliminatoires extrêmement cohérents, avec juste à la fin une défaite contre le Portugal, mais sinon ça avait été assez linéaire, une construction.
Ouais, mais dans le jeu, moi, il m'avait pas forcément séduit. Je les mettais pas en outsider du tout cette compétition.
Karine, jamais la Suisse.
Bah oui.
La Suisse, c'est jamais un jeu extraordinaire, mais ils sont toujours au rendez-vous. Alors, ce qui est extraordinaire pour ce pays, c'est qu'ils n'ont pas un championnat extraordinaire. Bon, ils ont des clubs qui font régulièrement la Coupe d'Europe, mais plus souvent
le
FC Ball, les Young Boys de Berne, c'est la Ligue Europa. Mais là, un truc qui est génial avec cette équipe, c'est qu'ils ont une qualité de formation. Si vous prenez les compétitions de jeunes, ils ont toujours une équipe bien placée. C'est un petit pays, la Suisse, et encore plus un petit pays de football. Ils ont toujours des jeunes bien placés.
Mais d'ailleurs, leur système de formation a inspiré d'autres pays voisins.
Exactement, réservoir naturel. Et chaque année, ils arrivent à alimenter leur équipe. Le petit Mbolo, qui est rentré en cours de jeu, qu'on annonce comme étant le grand joueur suisse du futur, pur produit de la formation suisse. Tous ces mecs-là sont formés dans leur championnat et alimentent au quotidien l'équipe nationale. C'est jamais flamboyant dans le jeu, je suis d'accord avec Karine, mais il faut quand même constater que sur les dernières compétitions, ils sont
c'est
tout
efficace.
Le temps là, et en plus, en finissant quasiment toujours premier leurs éliminatoires.
À propos de la Coupe du Monde en général, je voudrais rendre hommage, et puisqu'on parle de Suisse, Costa Rica, aux petits pays, notamment, entre guillemets, petits pays, qui sont déjà éliminés lors du troisième match, et qui, lors de cette Coupe du Monde, contrairement à beaucoup d'autres, jouent vraiment le jeu. C'est-à-dire qu'ils ne brattent pas les matchs. Bah regardez par exemple le Costa Rica.
Bien sûr, mais je pense
au Maroc
moi par exemple.
C'est certes,
la Corée
c'est
du Sud,
le Maroc, la Corée
qui est encore un peu dans la course.
L'Arabie aussi, hein.
Ouais, exactement.
Elles veulent repartir avec quelque chose parce que elles ont été un peu humiliées ou déçues, mais dans d'autres compétitions, souvenez-vous, les équipes lâchaient complètement et ça faussait d'ailleurs les troisièmes matchs. Pour le moment, personne n'a faussé la compétition.
Et du coup, ça rend parfois les matchs intéressants, alors
exactement.
Que sur le plan comptable, parfois, ils n'en ont plus. Alors, que diriez-vous de ces huitièmes de finale qui se profilent Brésil-Mexique, Suède-Suisse. Lequel choisissez-vous, Karine?
Alors, j'ai tout de suite envie
je sais qu'elle va choisir,
d'aller vers le Brésil-Mexique. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait plus Coupe du Monde. Hein. Tout de suite, ça fait plus rêver.
Plus
hein, voilà. Je laisse au garçon la deuxième affiche.
Voilà,
j'ai choisi.
Côté scandinave.
Honneur à la dame, comme on dit dans cette émission.
Non, mais Alors à côté de ça, je m'attendais pas du tout non plus à voir les Mexicains se faire ratatiner comme ça. Ça a été une vraie surprise sur ce troisième match.
C'est vrai qu'ils ont beaucoup fêté leur victoire sur l'Allemagne et que du coup ça les a.
Ils avaient bien préparé également leur compétition avant.
Oui. Ils aiment faire la fête donc.
Voilà. Mais honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce 3-0 subi. Mais oui, Brésil-Mexique, ça va être trahison. Après, les Brésiliens sont quand même largement favoris de cette opposition et ils se doivent de passer. Ça, il y a aucun doute parce que les Mexicains, on les a vus notamment face aux Allemands. On se demandait à un moment quand est-ce qu'ils allaient tirer. À un moment, t'avais l'impression qu'ils voulaient rentrer avec le ballon dans le but. Donc, le Brésil est largement favori. Dans les huitièmes de finale, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'oppositions qui sont assez déséquilibrées, comme l'opposition notamment de la Croatie, où on s'imagine déjà en quart. Alors, il y a beaucoup de surprises dans cette Coupe du Monde, mais voilà, il y a des affiches qui nous font imaginer ce que pourrait être déjà l'écart.
Les garçons, alors il vous reste.
Ah, génial.
Moi, j'adore la Suède. Suisse, ouais.
J'adore la Suède.
Et ben alors, allez-y. Parlez de la Suède.
Et ben, moi, je vois la Suède favori parce que je trouve que la Suède a une qualité extraordinaire. C'est que c'est une équipe qui sait à peu près tout faire. Elle n'a pas de grande star, évidemment. Elle n'a pas de joueurs.
Elle a un sacré parcours, surtout, Naïm, parce que elle est incroyable. Elle avait éliminé l'Italie. Donc,
Non, mais elle nous a battu. Elle nous a battu en éliminatoire.
On d'abord. S'en souvient.
Les Pays-Bas en éliminatoire.
Elle a battu les Pays-Bas. Elle sort l'Italie en barrage. Elle se retrouve dans une poule. Alors évidemment, elle perd contre les Allemands, mais elle les accroche quand même 96 minutes. Elle ratatine, comme dit Karine, le Mexique. Elle se retrouve en huitième. Ils savent défendre. C'est une équipe très solide, machin. Mais moi, ce qui me surprend surtout, c'est la faculté qu'elle a à marquer des buts.
Alors qu'ils n'ont pas de buteur.
Mais oui, parce que Toivonen, je suis désolé. Je vais pas me fâcher avec les Suédois après m'être fâché avec les Nigérians, mais excusez-moi. Toivonen, c'est quand même pas ce qu'on appelle un attaquant de haut niveau. Ils ont Marcus Berg, c'est pas tellement mieux. Durmaz, qui joue aussi à Toulouse, il est sur le banc. Donc au final, c'est une équipe qui marque à tous les matchs, qui en contre, arrive à se créer je sais pas combien d'occasions, avec zéro buteur, avec zéro attaquant de haut niveau. Donc à un moment donné, ils doivent quand même avoir des qualités sous-jacentes, un gros bloc, une bonne défense, un mental à toute épreuve. Moi, je pense que dans un match comme un huitième de finale de Coupe du Monde, où souvent c'est le côté nerveux, le côté psychologique qui prend le pas, moi je vois la Suède un peu favorite devant la Suisse.
Et puis on parle des nations sud-américaines notamment qui sont vraiment habité par l'idée de jouer une Coupe du Monde. Mais moi, je suis allé à Toulouse et j'ai rencontré donc Toivonen et Durmaz qui jouaient quasiment pas avec Toulouse en Ligue 1, qui n'étaient pas forcément concernés. Et ils me parlaient de la Coupe du Monde, mais c'était incroyable. J'avais l'impression de parler à des Sud-Américains dont ils allaient jouer le plus beau moment de leur vie. Et ils étaient habités par ce que représentait une Coupe du Monde. C'était incroyable. Et on le retrouve dans leur match.
Les Scandinaves, la Suède se qualifie, le Danemark se qualifie, l'Islande fait une phase de poule juste remarquable et éliminée. Mais bon, dans un groupe avec la Croatie et l'Argentine, on n'attendait pas autre chose. Donc vraiment, le football nordique,
présent.
Le football nordique sur cette Coupe du Monde, bravo.
Et ils se font remarquer, on les remarque.
Alors la Suède a réalisé un coup de génie, qui n'est pas que de la communication, c'est de se souder autour de l'affaire Durmaz.
Jimmy Durmaz.
Voilà. Parce que ça aurait pu vraiment faire exploser un bloc moins solide.
Alors racontons, c'est le joueur, allez-y.
Qui a commis donc la faute qui a permis
à
l'Allemagne.
Il ne joue pas, il rentre au moment de la fin du match Suède-Allemagne.
Il cause une faute qui permet à l'Allemagne d'obtenir un coup franc qui va s'avérer victorieux avec ce but du 2-1.
Ouais.
Voilà. Là-dessus, les réseaux sociaux le flinguent totalement, mais d'une manière raciste, ultra violente. Ça crée une polémique.
Et menace de mort.
En Suède, menace de mort. Ou certains
pour ses origines,
pour ses origines
assyriennes et turques. Alors que Zlatan Ibrahimovic, on le sait, a été le héros porté par cette Suède durant très longtemps.
Ça tombe au moment où le contexte politique change en Suède et où des extrémistes sont en train de saisir cette opportunité. Et donc, plutôt que de fragiliser cette équipe de Suède, ça la galvanise. Il se soude autour de lui. Une conférence de presse où lui devant tous derrière le bloc et ça s'est retrouvé sur le terrain.
Et c'est
extraordinaire.
Et aujourd'hui, la ministre des Sports est allée, alors vous savez, dans ces pays-là, on n'a pas de voiture officielle, de chauffeur et de gendarme devant et derrière. Elle est allée à pied au Parlement avec le maillot portant le numéro de Durmaz.
C'est extraordinaire.
Et elle s'est exprimée devant le Parlement dans cette tenue pour soutenir toute l'équipe de Suède. Et ça, c'est vraiment, effectivement, à noter et à raconter.
Oui, puis on voyait dans la scène que raconte Gilles, à la fin de son discours, Durmaz tombe dans les bras de son sélectionneur et tu vois que c'est un vrai moment. C'est pas du fake, c'est pas pour faire la bien com devant les journalistes. T'as un sélectionneur qui est touché parce que son joueur humainement est touché au plus profond et c'était un vrai moment de vérité. Et derrière, ce qu'ils arrivent à faire, c'est encore plus beau, bien évidemment.
Alors Gilles, parlez-nous de la Suisse face à la Suède. Selon vous,
t'as un
la
compte
Nati...
là-bas, toi.
Hélas, non. Alors... Enfin non, j'enlève le hélas. Ce qui va se passer, c'est que je crains un match peu spectaculaire, pour tout vous dire. Je vais le regarder avec passion. Je ne suis pas sûr que le contenu soit extraordinaire, parce qu'on a deux blocs, deux organisations. Aucun des deux, à mon avis, ne prendra de risque. Ça va durer très longtemps. Alors, il y a Shaqiri, il y a Chaka aussi, que moi j'aime beaucoup comme joueur.
Et qui avait marqué l'un des deux buts de la victoire contre la Serbie.
Magnifique. Il y a les frappes suisses qui sont possibles, mais personne ne va se découvrir. Là, franchement,
moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'on peut reprocher beaucoup de choses sur le niveau de jeu de la Suède et sur le fait qu'il n'y ait pas de stars. On va tous être d'accord. Mais alors, on peut pas dire que c'est pas spectaculaire les matchs de la Suède. Regarde le match de l'Allemagne. Regarde le match du Mexique. C'est une équipe qui joue comme des morts de faim. Ils partent à 3 ou 4 devant en contre. Alors d'accord,
oui,
peut-être
c'est deux équipes de contre.
Non mais tu vois, à un moment donné, oui mais enfin ils vont pas laisser le ballon au milieu en se regardant, à un moment donné, il y en a bien qui va se mettre à jouer à un moment donné. Moi je pense que la Suède justement, dans un match comme ça, elle va jouer exactement comme on l'a vu cet après-midi, comme on l'a vu contre l'Allemagne, elle va tenter sa chance à fond. Pour une bonne et simple raison, c'est que finalement la Suède elle fait partie des petits pays, des équipes qualifiées, et qu'elle a, je peux dire qu'elle a des complexes face à la Suisse, mais enfin elle peut pas non plus se permettre de les prendre de haut, donc moi je pense qu'ils vont jouer à fond.
Après, ils ont une bonne défense, les Suisses. Très bonne défense, hein. Très bien organisée.
Ces matchs auront lieu la semaine prochaine. Ça sera lundi et mardi. Donc, nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir et d'en reparler. Nous allons partir, eh bien, très très loin, là. On part à l'Est.
Hey, les lions ne miaulent pas. 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 Jamais.
Les lions ne meurent pas, dit-on, et ils miaulent, paraît-il, ces lions. En tout cas, le jour de gloire est-il de nouveau à la portée de ces lions de la Teranga? Demain, le troisième match de ce groupe H pourrait permettre au Sénégal eh bien, de se qualifier pour le prochain tour, pour ce huitième de finale tant espéré. Après, alors la belle et nette victoire contre la Pologne, on le rappelle, en entrant dans la compétition, après le match nul face au Japon, sans doute un peu décevant, eh bien, les Sénégalais ont encore toujours leur destin en main, c'est peut-être ça le plus important. Comment vont-ils à la veille de ce match? Alors, je vous avais dit qu'on partait vers l'Est, on part plein Est, on franchit des fuseaux horaires, on passe Moscou, on suit la Volga et on arrive à Samara où se trouve Olivier Pron. Bonsoir Olivier.
Oui, je suis en bateau sur la Volga, tranquille, je suis bercé là sur la barque. C'est presque dérangeant de vous écouter parce que c'est beaucoup plus tranquille là où je suis. Enfin, bonjour quand même madame, bonjour Karine, bonjour Gilles,
bonjour
monsieur Moniol.
Bonjour monsieur Pron,
je suis ravi de vous entendre.
Mais non, c'est moi aussi.
Normalement il boit des bières à cette heure-ci, là il est calme.
De la vodka plutôt là-bas, non?
À cette heure-ci c'est la vodka.
Dit, je sors boire une bière, alors je sais pas.
Oui, alors attendez, je viens de quitter monsieur Penaud.
Ah, donc c'est pas beau, c'est pas beau de balancer.
Et monsieur Jousset.
Donc il y a eu de l'alcool.
Ouais. J'imagine. Ils vous attendent.
Ce qui se passe en Russie reste en Russie.
Exactement.
Olivier, racontez-nous alors vous qui marquez ces lions à la culotte, comment vont les lions de la Teranga à la veille de leur match?
Écoutez, ils ont quand même, au-delà des 15 millions de Sénégalais, l'Afrique derrière eux maintenant. C'est clair, sont les seuls qui peuvent éviter à l'Afrique un fiasco retentissant. Depuis 1986, toujours une équipe africaine au moins s'est qualifiée pour le tour d'après, a franchi la phase de poule. Alors, c'est une grosse pression. Ben moi, j'ai trouvé qu'ils la vivaient plutôt bien, Aliou Cissé et Kalidou Koulibaly. Ils ont affiché en conférence de presse l'image qu'ils donnent lorsqu'ils s'entraînent la veille des matchs, c'est-à-dire des sourires complices, un discours ensemble, de connivence. Voilà, ils vont pas nous dire qu'ils n'y croient pas. Évidemment qu'ils y croient. Ils ont les chiffres pour eux. Ils ont 4 points. Comme les Japonais, ils sont en tête. Un match nul leur suffit. Voilà, jusque-là, tout va bien. Après, le problème, c'est que c'est la Colombie et que la Colombie arrive quand même lancée. Mais bon, on ne sait jamais. Il y a quand même beaucoup plus de Colombiens, je peux vous dire, notamment, je viens de traverser le hall de notre hôtel, c'est sûr que les Colombiens seront soutenus un peu plus que les Sénégalais qui vont arriver demain, c'est sûr, on les attend.
Alors justement, Olivier, cette Colombie, évidemment, vous lui en avez parlé à Aliou Cissé, est-ce qu'elle lui fait peur? Eh bien, c'est la réponse du sélectionneur des Sénégalais.
Vu la qualité des joueurs qualitativement et quantitativement, parce qu'ils ont aussi un banc, ils ont pas seulement que 11 joueurs. Ils étaient quart de finaliste quand même de cette même Coupe du Monde. 4 ans après, ils reviennent encore. Ça veut dire qu'ils sont quand même dans une cohérence avec un entraîneur quand même assez expérimenté, Pekerman, que je connais et que j'ai joué contre lui aussi, contre la même équipe de la Colombie en 2014, un match amical. Une équipe qui joue ensemble depuis pratiquement 6, 7 ans, 8 ans, voilà, qui sont très expérimentés, qui ont l'habitude de ces compétitions de haut niveau.
Alors c'est sûr, Gilles Verdez, que quand on entend Falcao, Quintero, Cuadrado, qu'on ajoute James Rodriguez, ça fait quand même beaucoup de talent. Il y a aussi en tribune Higuita et Valderrama qui sont là pour les encourager et pour les applaudir. Est-ce que on peut dire attention danger aux Sénégalais?
Non, alors non. L'optimisme règne. Alors l'euphorie est un peu retombée après le premier match à Dakar. C'est vrai qu'il y avait cette euphorie suscitée par cette magnifique entrée en matière. Le match nul suivant a un peu bridé l'enthousiasme.
À chaque fois que les Japonais marquaient, la liesse ne durait pas longtemps.
Mais c'est très bon, c'est très positif, parce que les Sénégalais commençaient là, après le premier match, franchement, on y est, on est arrivé, etc. Là, c'est retombé, ils sont concentrés, je suis d'accord, on l'a entendu avec Olivier. Ils sont rivés les yeux sur l'objectif. Le match nul, franchement, ils vont l'obtenir, le match nul. C'est pas possible qu'il n'y ait plus de pays africains. Alors vous me direz, c'est des incantations. Non, c'est de l'argumentation. C'est impossible que l'Afrique ne soit pas représentée. Impossible.
Je le trouve très, très optimiste. Alors moi, malheureusement, là, je vais être un petit peu en sens inverse de Gilles. Désolé,
Karine,
mes amis
Karine,
sénégalais. Non, mais j'ai beaucoup aimé leurs deux matchs. J'ai beaucoup aimé le contenu, notamment du deuxième match. C'était un match très ouvert. Le problème, c'est qu'ils ont eu l'opportunité de le gagner, ce match, et ils ne l'ont pas gagné. Et là, il y a un vrai cap à passer face aux Colombiens, parce que les Colombiens, c'est bien meilleur, évidemment, que la Pologne, qui était catastrophique, et c'est aussi meilleur que le Japon. Et j'ai peur que voilà, ce match nul, alors qu'il y avait une opportunité de gagner, alors qu'il y a eu une boulette sur le deuxième but japonais de la part du gardien sénégalais, même si Kawashima avait offert une belle boulette également.
Sur le premier but.
Sur un début. Je pense qu'il y a une vraie différence. Les Colombiens, collectivement, c'est magnifique. En plus, ils ont des individualités superbes. Je vois pas comment la Colombie pourrait être embêtée. Alors, le premier match, c'est un concours de circonstances incroyable. Il y a un pénalty et une expulsion très rapidement. La Colombie à 11, avec ses forces en présence et avec Rames, c'est bien meilleur que le Sénégal.
C'est ce qu'on imaginait d'ailleurs, qu'elle sortirait de la poule comme première. Avant la compétition, on imaginait ça en tout cas.
Moi d'abord, je pense que le Sénégal a d'abord son destin entre les mains, puisqu'il n'est pas dépendant de l'autre résultat. Deuxièmement, il y a quand même quelque chose de rassurant, c'est que face à la Colombie, ils ne vont pas avoir le ballon et que le Sénégal a des joueurs pour jouer en contre. D'ailleurs, je ne sais pas si Olivier a l'information, on parle de l'arrivée dans l'once de départ de Baldé Keïta et du retour de Cheikh Kouyaté au milieu. Donc ça veut dire que ça va être a priori la stratégie mise en place par Aliou Cissé, c'est de répondre aux défis physiques, mettre un gros bloc, essayer de contenir au milieu et lancer les fusées. Et ça, ils savent le faire. Donc il y a absolument, ils vont jouer leur jeu, bien sûr qu'ils sont pas favoris. Mais moi je vais dire un truc à Karine, rappelez-vous ce qu'on disait quand ils ont joué la Pologne. Ah mais oui, mais il y a Lewandowski, puis la Pologne, ils ont fait un quart à l'Euro, puis la Pologne machin, ils ont gagné finalement.
Mais la Pologne a été nulle.
La Pologne a été nulle parce que tu trouves vraiment que la Colombie depuis le début c'est extraordinaire, Karine, très sincèrement.
Collectivement, il y a un monde entre la
Pologne. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi un monde entre ce qu'on attend de la Colombie et de ce qu'ils montrent. Donc moi je pense qu'ils ont aussi leur chance. Le Sénégal, bien sûr, va pas falloir donner que Kadima Ndiaye fasse d'erreurs, va pas falloir non plus que certaines individualités comme Sadio Mané se trouent, comme ça a été un petit peu le cas sur le Japon, je pas trouvé terrible, mais je pense qu'ils ont leur chance.
Olivier, justement, sur ce que suggérait Naïm, vous aussi, vous avez ces informations que sur la composition de départ ?
Eh ben oui.
Oh, c'est fou. Ah
ben ça circule.
Khadim Diaye dans les buts, Sabali, Koulibaly, Sané, Wagué en défense, ça ne change pas. Il n'y a aucune raison pour que ça change parce qu'ils ont fait le métier. Gueye et Cheikh Kouyaté devant cette défense, c'est le retour du capitaine. Il n'a jamais été titulaire depuis le début. Il était à chaque fois rentré, mais il n'était pas titulaire, Cheikh Kouyaté. Ensuite, on devrait avoir Sarr à droite, Niang dans l'axe, Mané à gauche. Et effectivement, Baldé Keïta qui n'a pas joué une seule minute depuis le début, qui pourrait être titulaire. C'est un 4-2-3-1, voilà ce qu'on a cru comprendre, à vérifier demain. Moi, je vais vous soumettre à un débat, et c'est cette phrase qui a été tweetée d'ailleurs par Christophe Jousset après la conférence de presse, parce qu'elle résume bien les tenants et les aboutissants de cette rencontre demain. Elle vient de José Pekerman, le sélectionneur des Colombiens, qui nous dit que ce sera un match difficile, il y aura de la tension, il y aura de la pression, il va falloir vivre avec, mais ça, la Colombie l'a déjà fait. En revanche, le Sénégal, on va voir comment il va se comporter dans un contexte pareil, et c'est la grande inconnue qui va être capable, de de supporter la pression et la tension.
Oui, mais je trouve que justement, ils l'ont plutôt très bien fait, cet aspect-là des choses. Parce que lorsque le Sénégal joue son premier match, c'est la dernière équipe africaine qui joue. Et on attendait une première victoire. Et je trouve que Aliou Cissé, pour le coup, il donne de la sérénité à son équipe. Et sur les deux matchs, leur entame de match sont bonnes. Il y a des buts qui arrivent un petit peu tardivement, entre guillemets, par rapport à leur possession de balle et leurs opportunités. Mais je trouve qu'ils ne sont pas dépassés par l'événement. Sur les deux matchs, en tout cas, ils l'ont très bien fait. Peut-être pas demain, mais sur les deux premiers matchs, je trouve que le groupe a été très serein et c'est la grande force d'Aliou Cissé qu'on voit en photo là parce que il sait garder ses joueurs concentrés mais sans
sans les rendre fébriles.
Oui, sans les rendre fébriles. Ce qu'on a vu par exemple des Marocains face aux Iraniens où ils ont perdu le fil tout seuls.
Justement, on va entendre l'un de ces joueurs que vous avez rencontré aussi, Olivier, c'est Kalidou Koulibaly qui évoque l'importance qu'a pour leur groupe ce grand frère Aliou Cissé qui a vécu l'épopée de 2002.
Il nous apporte beaucoup déjà sur le continent africain, il a l'expérience donc il nous a beaucoup apporté pour la qualification pour la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, il nous apporte beaucoup de sérénité. Lui, il a déjà joué une Coupe du Monde, donc il nous a donné tous les conseils qu'on avait. Et puis voilà, c'est positif. Il faut qu'on sait que tout est bon à prendre de lui, surtout du staff, parce que c'est un staff très compétitif et avec beaucoup d'expérience qui a déjà vécu une Coupe du Monde. Donc à nous de tout prendre pour jouer la nôtre. Il nous incarne le patriotisme. C'est quelqu'un qui vit pour son pays et c'est important pour nous. On sait qu'on joue pour 15 millions de Sénégalais, mais aussi pour tous les Sénégalais du monde, donc même pour tous les Africains aujourd'hui. Donc voilà, on doit avoir ça en tête quand on joue.
Le défenseur Kalidou Koulibaly de Naples, hein, ce grand défenseur essentiel au Lion de la Teranga, Gilles Verdez.
Alors je souscris totalement à ces propos, aux propos de Koulibaly, parce qu'au Sénégal, il y a quand même eu un petit problème de transmission, d'héritage de cette formidable épopée de 2002.
Ah oui. Il a fallu attendre 16 ans.
Oui, c'est ça, ça fait long. Hein. On se demandait où étaient les grands anciens, dans l'encadrement ou pas. Entre eux, ils sont pas toujours d'accord. C'était un peu compliqué. Et là, on a l'impression que voilà, c'est le retour de l'épopée. Donc 16 ans après, on y est, les anciens sont à la tête et ils ont transmis le goût de la victoire, ça c'est très important. Je voudrais juste revenir un mot sur Pekerman, parce que Pekerman, ses propos ne me font pas peur. Ce propos-là sont les propos d'un homme qui a peur, lui. C'est un trouillard, Pekerman. Il est en train d'essayer de donner la pression, d'octroyer la pression aux Sénégalais parce qu'il sait que son équipe craint le Sénégal. Il veut défendre ses joueurs. S'il fait ça, Pekerman, c'est qu'il a déjà perdu.
Vous avez senti ça, Olivier ?
Bien sûr.
Non, pas vraiment, mais j'ai envie tellement de croire dans ce que dit Gilles. J'ai tellement envie de croire ça. Évidemment, on a tous envie que le Sénégal décroche ce point qui lui ferait passer la phase de poule et d'avoir une équipe africaine en huitième, ce serait juste magique. Et puis voilà, on aime bien ici écouter Aliou Cissé. Il donne en conférence de presse. On aimerait qu'il donne en dehors des conférences de presse, mais bon, c'est son mode de fonctionnement. Mais bien sûr, Lamine Diatta, Omar Daf, Tony Silva, les anciens sont là, ils n'ont pas perdu un match officiel depuis 3 ans et 3 mois qu'ils sont au pouvoir, souhaitons que cela continue. Voilà, il faut de la concentration. La clé, c'est la concentration demain. Pendant 90, 95 minutes, il ne faudra pas commettre d'erreur. C'est ce qui leur a coûté la victoire face au Japon, c'est ce qui leur a coûté le but de Krychowiak face à la Pologne. Il va falloir être serré.
Ouais, la clé évidemment la concentration et puis aussi que les stars de cette équipe assument leurs responsabilités, parce que quand on a parlé de la Colombie, on a évidemment parlé de James Rodriguez qui est le meneur de jeu, qui est un peu l'homme qui fait tout dans cette équipe.
On avait découvert en 2014 et qui confirme et
on attend
en 2018.
Aussi un petit peu Falcao, même si c'est moins qu'il y a quelques années. Moi j'aimerais, on l'a entendu, que Koulibaly soit le grand défenseur qu'il est à Naples et que enfin Sadio Mané nous montre tout ce qu'il nous a montré avec Liverpool, ses différences balles au pied, sa vitesse, qu'il est capable de finalement de faire des déséquilibres dans n'importe quelle défense. Moi je pense qu'il peut le faire parce que on a vu contre le Japon que dès que la Colombie se retrouve face à des joueurs rapides, vifs, ils sont en difficulté. Il y a un gros bloc, oui, mais c'est
ils
pas des,
à 10,
c'est
mais
des
bon.
Joueurs oui, mais enfin ils ont quand même remis un défenseur derrière, donc au final ils étaient pas non plus tant que ça désavantagé. Et moi, je suis sûr que la vitesse d'un Baldé, la vitesse d'un Niang, ça peut déséquilibrer ce bloc colombien, j'en suis convaincu.
Après avoir Baldé aussi, parce qu'on s'interrogeait du fait qu'il n'ait pas du tout joué lors des deux premiers matchs, même si en fin de saison il avait été blessé avec Monaco, dans quel état il va être, parce qu'il est quand même un petit peu à court de forme. J'espère qu'il sera au rendez-vous. Enfin, si on tape un Baldé qui est dans la même forme que Thomas Lemar, qu'on nous a ressorti du chapeau lors du troisième match, ça va être compliqué.
Olivier, on vous laisse aller retrouver Christophe Jousset et Hervé Penaud, mais dites-nous juste ce que vous avez senti. Alors, je dirais, écartons le côté journalistique. Philippe Zigraf, éteignez votre radio et dites-nous ce que vous sentez pour demain.
Moi, je veux contrarier les plans du Réfé qui a déjà tout prévu pour les huitièmes de finale et les quarts. Je veux foutre le bordel. Et donc, je vous le dis, je veux que le Sénégal passe. Je pense que le Sénégal a les moyens de passer. Et ils vont pas nous décevoir. C'est pas possible. Donc, oui, allez les Lions. Évidemment, on va pas se cacher à RFI. On a envie que les Lions passent. Et moi, j'y crois.
Non. Eh ben, on leur souhaite tous bonne chance, je crois, ici. Un petit pronostic. Tout le monde... a envie de cette victoire.
Un partout, moi.
2-1 pour le Sénégal.
Karine, elle dit qu'elle est très mauvaise en pronostic. Karine. Oui.
Non, mais alors moi, je ne crois pas effectivement à une victoire ou à un match nul demain des Sénégalais. Mais même s'il y a une élimination, je trouve que leur Coupe du Monde aura été réussie. Parce que dans le contenu et dans l'approche de leur match et dans leur entame de match, je trouve qu'ils ont été au rendez-vous. Être battus face à la Colombie, si c'est le cas, c'est pas du tout une surprise. Ça serait le meilleur qu'il emporterait. Donc voilà, je pense que le bilan sera quand même positif au Sénégal. Aliou Cissé se fera évidemment déchirer si c'est le cas, mais moi l'analyse du mondial du Sénégal sera pas celle-là comme le Maroc avec Hervé Renard. Il y a eu des erreurs, mais il y a aussi du contenu intéressant.
Ils seront pas battus, Karine.
Je l'espère, mais je suis nulle en pronostic. Ah, donc génial. Amis sénégalais, soyez rassurés, c'est un fiasco.
En tout cas, ce qu'on entend derrière, eh bien, ce sont les supporters, tous ceux qui les suivent et que vous devez croiser parfois. Olivier, bonne nuit à vous, bonne soirée et surtout bon match demain. On se retrouvera après. Merci.
Merci à vous, on croise les doigts.
Oui, on les croise tous, merci beaucoup. Et donc voilà, à Ouagadougou, on les appelle les infatigables, ceux qui suivent partout l'équipe, la sélection, et qui jouent pendant tout un match et que les joueurs entendent.
C'est impressionnant, hein.
Exactement, et là, eh bien, ce sont les Sénégalais qui eux aussi ont pris le chemin courageusement de la Russie. Allez, on continue, et cette fois-ci, eh bien, on va partir un peu à l'est aussi, mais on va s'arrêter à Berlin. Pas besoin d'image pour que vous compreniez ces cris d'effroi. C'était dans la foule qui s'était massée sur une place de Berlin cet après-midi, où les supporters ont donc assisté à la déroute allemande en Russie. Pourtant, ils étaient rentrés du Brésil la coupe à la main en 2014. Et cette fois-ci, eh bien, ils rentreront sans doute la tête basse, peut-être les larmes au bord des yeux, ces champions du monde sacrés au Maracana en 2014 à Rio de Janeiro, et déchus aujourd'hui, battus par la vaillante équipe de Corée du Sud sur le score de 2-0. Et surtout, hein, quand même, c'était, eh bien, par ces 3 buts inscrits par la Suède face au Mexique. Alors, des Allemands frappés eux aussi par la malédiction du champion, comme la France de Zidane en 2002, l'Italie de Buffon en 2010 ou encore l'Espagne de Ramos et Casillas en 2014. Le quotidien sportif allemand a écrit tout simplement: nous n'avons pas les mots pour définir cette élimination historique. Hein, ça n'avait jamais eu lieu dans l'histoire des Coupes du Monde de l'Allemagne. Écoutons surtout le capitaine courage Manuel Neuer, qui ne cherchait pas, lui, des mots d'excuses.
C'est une situation très difficile d'avoir été éliminé dans la phase de groupe. Ça n'était jamais arrivé pour une équipe allemande en Coupe du Monde. Nous sommes profondément déçus, tristes, et nous sommes énervés contre nous-mêmes, parce que c'est notre responsabilité en tant que joueur. Personne ne peut dire que ce n'est pas de sa faute. Nous devons en parler et analyser cette défaite. Et le football allemand attendait que nous gagnions, et on n'a pas vraiment remarqué, franchement, que c'était une équipe allemande qui jouait. Et c'est notre responsabilité ici qui est engagée. Il va falloir trouver des paroles claires. Et encore une fois, c'est nous qui sommes responsables. C'est une heure sombre pour le football allemand.
Oui, alors difficile effectivement cette soirée sans doute pour les Allemands. Qui l'eût cru, Karine, vous qui êtes mauvaise en pronostic, vous aviez pensé, imaginé que l'Allemagne sortirait?
Non, j'étais prête à parier la maison de mes parents que l'Allemagne allait passer. Je l'ai pas fait. Non, mais honnêtement, c'est...
Finzel l'avait parié, mais il y avait quand même eu... juste pour la petite histoire, un tweet, je m'en souviens, parce qu'on en avait parlé dans Radio Foot, de David Lortolari, qui est notre consultant sur l'Allemagne et qui bientôt sera de nouveau avec nous dans les studios de Radio Foot. Et juste avant, au
il
moment...
Était inquiet.
Voilà, il était inquiet, il trouvait une équipe coupée en deux. expliquait-il. Et donc, il exprimait effectivement son inquiétude.
Non, mais il y avait des zones de doute avant le début de la compétition. Effectivement, il y avait notamment un problème d'efficacité devant le but. C'est une équipe qui avait pas trop marqué. Mais enfin, de là à perdre face aux Sud-Coréens, moi, je l'aurais jamais imaginé. Parce que là, on a retrouvé les problèmes qu'il y avait lors des autres matchs.
Et alors, ils perdent dans les 9 minutes extra du match.
Mais c'était une équipe stérile. C'est-à-dire que face au Mexique, pareil, ils avaient la possession de balle. Ils essayaient de marquer, mais il n'y avait pas d'efficacité. Et puis, il y a aussi des hommes qui posaient question avant le match. Et là, on se posera encore plus de questions. Peut-être qu'ils vont prendre leur retraite, j'en sais rien. Mais il a remis Ozil. Ozil, il était d'une lenteur et il était tout sauf sur le terrain. Il y avait le retour de Khedira. Les choix qu'il avait fait lors du deuxième match, il les a rechangés lors du troisième match parce que ce sont des cadres et parce que Joachim Löw, il les connaît mieux que personne.
Il avait sorti Müller quand même.
Il avait sorti Müller. Oui, mais il avait remis les deux autres.
Oui, mais... Celui qu'il avait sorti au match d'avant.
Et au final, Ozil, quand il est, c'est-à-dire le Ozil transparent qui met pas de rythme, qui fait que des passes latérales, ben c'est un poids pour ton équipe alors que ça peut être un joueur brillantissime.
D'ailleurs, c'est ce que vous dites, Naïm, il y a, Gilles, juste une chose, il y a aussi Neuer. Neuer,
Manuel Neuer, il n'a pas joué de la saison.
Gardien du monde,
Il a quasiment fait une saison blanche, Manuel Neuer. Hein,
oui, mais il a eu du mal en plus.
C'est clair qu'il a raté sa Coupe du Monde. Il n'était pas au niveau. Et c'est d'autant plus, alors, pour Joachim Löw, qui a fait des choix, qui a sorti Müller, qui a sorti Ozil, qui a sorti Khedira, on aurait pu penser qu'il sorte Neuer pour faire jouer Ter Stegen, qui lui a fait une saison peine à Barcelone. Il ne l'a pas
pour
fait.
Le troisième match,
je peux le comprendre parce que Manuel Neuer, là, on va parler des statuts, mais voilà, c'est.
Et c'est les statuts qui ont fait perdre l'Allemagne?
Pas uniquement, parce que le vrai problème de cette équipe, c'est qu'on en a parlé. J'en ai parlé hier, rappelez-vous, Marc Libra disait, oui, mais ils se créent des occasions, ils n'auront pas toujours de la malchance. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ont quand même pas de buteur. Par rapport aux générations précédentes, où ils avaient des Miroslav Klose, où ils ont eu, on va parler plus loin, des Bierhoff et compagnie. Cette année, l'Allemagne, dans le groupe qu'il y a, vous n'avez pas un attaquant qui a le niveau pour mettre 7-8 buts dans une compétition comme ça.
Gilles.
Alors moi, je réponds oui à votre question sur les statuts. On fait perdre l'Allemagne. Mais pas que l'Allemagne. La malédiction des champions du monde, c'est ça. Vous êtes repus de titres.
C'est le lien entre ces équipes qui butent l'année d'après.
C'est la même chose. Vous n'avez plus la même envie de gagner. Pas totalement cette même envie de gagner.
C'est-à-dire vous faites pas autant de sacrifices.
Pas autant de dépassement de fonction. Vous êtes plus irritable dans le groupe. On a gagné, donc on est un tout petit peu suffisant quand même. Oui, suffit d'être nous-mêmes alors que les autres sont à 150%. Et enfin, dernière chose, les entraîneurs qui restent comme Löw ne peuvent pas changer les icônes. Vous êtes obligé de les aligner. Il était obligé de garder ses grognards. Alors, il les a virés un match, etc. Même la Coupe des Confédérations où il avait mis les jeunes, bah là, il les a introduits dans son équipe très partiellement. Il a laissé les stars.
Et puis, ils ne sont pas révélés en plus ultra efficaces. On pense à Timo Werner qui avait été efficace en Coupe des Confédérations.
Draxler moyen aussi, il était sorti
Parce que quand on parle de la malédiction des champions du monde, mais c'est aussi, on le sait maintenant, la malédiction de ceux qui gagnent une coupe des confédérations et qui l'année d'après, la compétition est complètement différente, mais le Brésil l'avait su à ses dépens.
Le groupe et le 11 de départ a quand même beaucoup évolué en 4 ans.
Oui, pourtant, c'est vrai.
Sur les 23, vous n'en avez pas 20 qui ont tout gagné et qui n'ont plus rien à faire.
Sur le 11 de départ de la finale et le 11 qui débute la Coupe du Monde, il y a 6 joueurs qui sont identiques. J'avais fait la stat. 6 joueurs, c'est quand même beaucoup.
Oui, mais c'est des jeunes.
Et tu peux même en mettre 7 parce que Khedira, il se pète à l'échauffement et logiquement, il aurait été titulaire à la finale. Et il était titulaire lors du premier match.
Il n'y a pas énormément de choses qui a changé. T'as quand même beaucoup de choses qui a changé en 4 ans entre l'Allemagne de 2014 et l'Allemagne de 2018. Et faut pas non plus retourner sa veste.
Beaucoup a changé surtout son jeu là.
Faut pas retourner sa veste. L'année dernière, à la même époque, ils gagnent la Coupe des Confédérations. Tout le monde dit purée les Allemands. Ils ont trois équipes pour faire la Coupe du Monde. Joachim Löw, Joachim Löw, il a pas son pareil pour introniser des jeunes. Faut voir le réservoir qu'ils ont. Attention en 2018.
Voilà. Oui, mais ils n'ont pas confirmé.
Ils n'ont pas confirmé. Mais en 2014. Match du Brésil mis à part, ils survolent pas la compétition non plus. Ils font une phase de poule normale, classique. Ils manquent de se faire taper par les Algériens. La France ne montre rien. Et en finale, Higuain, il a pas les pieds carrés, il a perdu la finale. Voilà. Ce qui leur a manqué par rapport aux générations précédentes, c'est qu'ils n'avaient pas devant la réussite. Ils n'avaient pas le mec qui te met les buts, comme ils ont eu des Klose, des Podolski, des Bierhoff, des Klinsmann à l'ancienne. Cette année, que ce soit Gomez, que ce soit Werner, même le petit Brandt, même s'il a pas beaucoup joué, ils n'avaient pas les joueurs pour faire ce que l'Allemagne fait,
j'aurais aimé le voir titulaire. Ah,
moi, je suis bien d'accord.
Ses entrées en jeu,
mais elle n'avait pas ce que l'Allemagne a d'habitude, c'est-à-dire une efficacité chirurgicale, une froideur, une efficacité.
On croyait l'avoir retrouvé sur ce coup franc miraculeux, mais finalement, c'était un fait qui a été extrêmement volatile. Voilà, un feu de paille. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Naïm, c'est que il n'y a pas de hasard. Cette malédiction des champions du monde, on la retrouve à chaque fois. C'est donc que le football de sélection, contrairement au football de club, c'est très particulier. C'est des rendez-vous ponctuels. C'est des missions. C'est des commandos, j'aime pas le mot. C'est des gens en mission qui, pendant un mois et demi, sont ensemble pour un objectif commun. Quand vous l'avez déjà atteint, vous n'avez plus tout à fait la même foi pour l'atteindre de nouveau.
Mais d'ailleurs, ça fait un peu penser, alors là, vous parlez du football de sélection, mais nous, on peut aussi penser à l'exemple du Real, parce que cette année, c'est ce qu'on a aussi beaucoup dit, où Zidane avait fait ce choix aussi de rester avec des cadres et des joueurs.
Mais lui, il a réussi parce qu'en club, on peut encore gagner, parce que c'est sur une année, etc.
Exactement.
Mais sur des missions comme ça, où seule la foi compte, quand vous n'avez plus cette foi, c'est très difficile.
Mais c'est quand même une énorme surprise.
Oui, bien sûr.
On croyait qu'il y avait eu le déclic, effectivement, avec ce but de Kroos, dernière seconde, qu'ils avaient suffisamment peur. Personne n'avait imaginé ce fiasco. Tu te fais taper en huitième
contre
un gros. Et puis contre la Corée, en plus. C'est vrai qu'on avait sans doute... Les Coréens, ils ont gagné 2-0, bravo. Mais enfin, moi, sur les deux premiers matchs, j'y croyais pas une seule seconde à une possibilité de voir
c'est
les 2-0. Sud-Coréens.
Ouais, le deuxième but est induit par le premier, c'est-à-dire que Neuer même était avant-centre. Il n'y avait plus personne. Il avait déserté
sa cage. Une question, parce que tout à l'heure, je vous voyais sourire quand on évoquait, par exemple, Suède-Suisse comme huitième de finale. Est-ce qu'ils vont manquer à la compétition? Parce qu'hier, on avait vu l'Argentine et on se disait Messi ne peut pas manquer à la compétition. Certains disaient que ça manque après de brio dans une compétition. On se disait... s'il n'y avait pas le Brésil non plus, alors les Allemands.
Évidemment qu'ils vont manquer, vous rendez compte, les Allemands pas au rendez-vous des huitièmes de finale de la Coupe du Monde, déjà qu'on n'a pas l'Italie, qu'on a une Argentine un peu l'Argentine n'est pas top non plus, donc évidemment j'ai mal à mes classiques, mais c'est la vérité, c'est évidemment que c'est un gros coup dur pour la Coupe du Monde, pour tout le spectacle et tout ce que ça véhicule, mais sur l'ensemble des trois matchs, excusez-moi, il y a une logique sportive qui est respectée.
Ah oui, ça c'est sûr. Gilles,
cette Allemagne là contrairement à cette vancière, ne va pas manquer. L'Allemagne en tant que telle,
mais celle-là,
vu l'Allemagne, le niveau, elle aurait été éliminée piteusement en huitième.
Mais d'ailleurs, donc, c'est ce qu'a dit Joachim Löw. Il a dit, nous ne méritions pas.
Ah oui, exactement.
C'est clair.
Il faut leur reconnaître une extrême lucidité, tant au sélectionneur qu'à Neuer.
Exactement.
Qui vient dire tout ce qu'il dit, nous n'avons pas joué comme une équipe allemande.
En sortant de la pelouse où ils pleuraient tous.
Franchement, bravo, pas d'excuses, directement remise en question, etc. Ça, c'est formidable. Après, non, ils n'étaient pas armés pour aller loin. Donc voilà, ça aurait été un miracle qu'ils passent et ils se seraient fait éliminer au tour suivant.
Karine, Joachim Löw avait été confirmé ce matin par sa fédération parce que son contrat avait été reconduit en fait avant la Coupe du Monde. Mais même avant ce match, la fédération avait voulu dire qu'il resterait jusqu'en 2022. Vous croyez que...
Je trouve ça très bien. Non, mais moi, le côté on change tout parce qu'il y a un échec, c'est pas forcément.
Alors l'Égypte l'a déjà
solution.
Fait, elle a enlevé Hector Cooper. Il était en fin de contrat,
Moi je trouve que c'est bien parce que Löw c'est toujours l'homme de la situation. Ce qu'il avait fait lors de la Coupe des Confédérations en emmenant pratiquement que des jeunes, ça a été intéressant. Il a fait grandir des joueurs entre 2014 et 2018. Un Kimmich était rien en 2014 et c'est devenu un élément important. C'est un très bon sélectionneur. Si lui il pense qu'il a encore l'envie et qu'il a le désir de faire progresser des jeunes, il doit continuer. C'est un échec, bien sûr, mais ça n'enlève rien à tout le travail qu'il a fait, parce que avant qu'il soit champion du monde, il y a eu des échecs entre guillemets, c'est-à-dire que ils ont buté en demi-finale, en finale,
chez
etc.
eux en 2006.
Et c'est
hein,
le fait de continuer d'être persuadé qu'ils étaient dans le vrai qui les a amenés à ce nouveau titre.
Gilles. Ah
oui, la question c'est de savoir si lui, comme disait Karine, aura encore la foi. Ouais. Attention, parce que Löw, il est courtisé par des très grands clubs.
Et oui, le Real l'avait courtisé.
Absolument.
On le
Donc il a plein de propositions sur la
table. Pour le Real, c'est trop tard.
Absolument. Est-ce qu'il va pas dire quand même, il est temps de passer à autre chose. Il faut maintenant que tous les cadres se retirent. Est-ce que lui va vouloir le faire, sacrifier ceux avec lesquels il a été champion du monde? J'en suis pas encore tout à fait certain.
Oui, mais après, par exemple, un Ozil, un Kedira, un Neuer, est-ce qu'ils ont envie de repartir sur 2020 les éliminations? Et tout, c'est...
Eh bien, c'est la fin de ce Radio Foot International qui a passé très vite, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'être venu ici à cette heure tardive. Merci aussi à David Finzel, fidèlement derrière la vitre, Jérémy Besset qui était là et aussi l'équipe de Facebook Live. On